Pierlotti par Louis Barthou. Mesdames, messieurs, s'il m'arrive d'employer d'une façon trop continue le pronom personnel, je vous prie de ne pas le trouver haïssable, ou d'en rendre responsable le directeur de la revue. Tout en me laissant une liberté dont je le remercie, il m'a moins demandé, en effet, une conférence sur Pierlotti qu'une sorte de causerie familière où je recueillerai quelques-uns de mes souvenirs sur l'écrivain illustre qui me fit l'honneur de son amitié. Ainsi, le jeu et le moi sont inévitables. C'est un écueil. Mais vous m'aiderez, sinon à éviter ces dangers, du moins à atténuer leurs risques, en vous persuadant que je viens accomplir devant vous un acte d'admiration où ma vanité ne cherche à jouer aucun rôle. D'ailleurs, à un autre point de vue, la tâche est difficile. Pierlotti s'est mis dans son œuvre plus et moins qu'on ne le croit. Ses voyages, ses aventures et ses amours, il ne fit pendant longtemps aucun voyage qui n'eût son aventure amoureuse, en constituent le fond sincère. Il enchantait son mal, c'était sa devise, mais il ne romançait pas assez sa vie pour qu'on n'en retrouve pas aisément les étapes et les incidents, les émotions et les sensations dans les récits où il la raconte. Il la transpose sans la déformer. Mais il ne disait que ce qu'il voulait dire. Il gardait jalousement les secrets très divers de son âme complexe et changeante, où les grandes passions voisinaient avec les petits enfantillages. À la fois naïf et rusé, raffiné et primitif, coquet et sauvage, doux et violent, confiant jusqu'à la duperie et méfiant jusqu'à l'injustice, sensible et sec, timide et agressif, il déconcertait par ses contrastes. L'hommage qu'on rendait au génie de l'écrivain hésitait devant le caractère de l'homme. Il était illustre et méconnu. Des légendes couraient sur son compte. Toutes ne le faisaient pas sourire. Il ne savait pas pousser le mépris jusqu'à l'indifférence, et j'étais souvent le témoin de ses colères. Afin de les apaiser, il fallait, même s'il avait tort, commencer par lui donner raison. De son propre aveu, il y eut toujours de l'enfant en lui. Ses bizarreries l'amusaient, tantôt comme une drôlerie et tantôt comme un défi, mais elle trompait sur sa vraie nature une opinion qu'elle renseignait mal. Vers la fin, il eut la joie d'une gloire grandissante. Son génie vainqueur lui avait assigné un rang que ses grands émules, un Anatole France ou un Barès, ne lui contestaient pas. Son œuvre témoigne pour lui par des chefs-d'œuvre qui ne peuvent pas périr. Alla, c'est les maîtres Verselotti, disait Asiadé, la jeune circassienne aux grands yeux et aux prunelles vertes. Allah protège Lotti. Qui avait entendu cet appel? Une divinité tutélaire ou une fée bienfaisante? Je ne sais, mais quand Lotti mourut, il mourait immortel. Je tiens pour l'une des plus grandes fiertés de ma vie l'honneur de l'avoir connu. Ce fut au cours de l'automne de l'année 1906. Mon admiration avait précédé cette première rencontre dont elle fut la cause. Jusque-là, je n'avais pas trouvé, et peut-être même n'avais-je pas cherché, l'occasion de voir Lotti. Il vivait peu à Paris. Il n'y passait que rarement et rapidement, toujours enveloppé de mystères et plein d'astuces pour se dérober aux indiscrétions. Il ne portait pas le nom charmant qui l'avait rendu célèbre. Il se plaisait au jeu compliqué de l'incognito. Quand il quitta l'hôtel modeste où l'enseigne du bon Lafontaine accueillait de braves curés de province, il choisit un gîte plus somptueux à cause d'une porte secrète, ou qu'il croyait telle. Et quelle difficulté il fallait vaincre pour pénétrer jusqu'à lui. Aucun sultan n'était mieux gardé. Ce ne fut donc pas tout de suite que je reçus mon initiation et que la confiance de Pierlotti m'admit au rite et aux mots dont la connaissance était nécessaire pour le voir. À vrai dire, cette confiance, je suis étonné de l'avoir obtenue si vite. Il y avait entre Pierlotti et moi un terrible obstacle. Quand je demandais à le rencontrer, j'étais ministre. Or, les ministres n'étaient pas ceux que Lotti préférait parmi les grands de la terre. D'un mot plus franc, il les abhorrait. Son aventure du Tonkin en 1883 lui avait laissé un souvenir dont l'amertume s'exhalait encore, 36 ans après, en 1910, dans cette tendre et délicate et exquise prime jeunesse, que l'habileté de M. René Domic obtint comme un précieux joyau pour la revue. Il y prenait à partie Jules Ferry comme l'un des plus funestes de nos gouvernants. à cause de l'absurde et folle expédition qui avait sacrifié pour un but stérile des milliers d'enfants de France. Les trois articles qu'il publia dans Le Figaro en septembre et en octobre 1883 sur trois journées de guerre en Annam avaient motivé son rappel. Il faut convenir que les couleurs de ces descriptions admirables étaient assez violentes pour émouvoir le gouvernement attaqué par une opposition intransigeante. Mais en 1919, la guerre avait démontré à tous la clairvoyance courageuse de Jules Ferry. J'essayais d'obtenir de Pierre Loti la suppression d'un passage inutile et injuste. Rien n'y fit, il ne céda pas. Ses sentiments antiministériels, qui n'étaient pas encore des ressentiments, remontaient d'ailleurs à une date plus ancienne. Ouvrez le journal intime. On est à Cherbourg en août 1880. C'est la visite officielle du président de la République à l'escadre. Grand pavois, salve, bamboulas officielles, cérémonie écœurante. C'est ce ramassis de commis voyageurs en goguette qui nous gouverne. Ils se tiennent bien mal, ces gens-là, ils sont bien laids, nos ministres. Et les braves matelots qui paradent depuis le matin pour cette clique de pacotille lui jettent en passant des regards moqueurs. Si je proteste contre cette appréciation, ne croyez pas que la solidarité ministérielle m'y contraigne. Il serait excessif que je me sente lié par la laideur des ministres qui exerçaient leurs fonctions au cours de l'année 1880. On a déjà quelque peine à accepter ou à subir, quand on fait partie d'un gouvernement, la responsabilité de tous les actes qu'il accomplit. Après 50 ans, la prescription acquise a détruit la solidarité. Mais Pierre Loti est, de toute évidence, trop partial. Il use d'un vocabulaire de pamphlet où la généralisation est condamnée par ses excès même. Peut-être, d'ailleurs, n'était-il pas républicain. Qui pourrait dire les opinions politiques de Pierre Loti? Il avait, dans sa jeunesse, considéré comme des facéties toutes les choses sérieuses, la politique surtout. Quoique, sur ce dernier point, je n'ai jamais reçu ses confidences, je suis sûr qu'il n'avait pas changé. Il s'inquiétait peu des doctrines, des principes et des programmes. On lui plaisait ou on lui déplaisait, voilà tout. Il entrait dans ses jugements plus de sensibilité que de réflexion. Aussi était-il décevant et contradictoire. Pourtant, il n'aimait pas le régime parlementaire. Cette aversion s'exprime dans le livre où on s'attend le moins à la trouver, dans la charmante et perverse Asiadée qui fut son début. Il ne pouvait pas se faire à l'idée d'un sultan constitutionnel. Qu'aurait-il dit d'une Turquie républicaine? Selon la forte parole de Herbert Spencer, il n'y a que l'imprévu qui arrive. Si fataliste qu'il fût, Pierre Loti ne se serait pas résigné à cette philosophie pessimiste. Mais quand il commentait le Coran avec des derviches dans le kiosque funéraire de Soliman le Magnifique, il n'avait pas tort de penser qu'une constitution n'aurait été admise ni par le grand souverain qui fit étrangler en sa présence son fils Mustapha, ni par son épouse Roxelane qui inventa le nez en trompette. Au moment où je le vis pour la première fois, en 1906, Pierre Loti venait de publier Les Désenchantés, dont le triomphe, qui dépassa son but, contribua à ruiner l'une des traditions ancestrales les plus caractéristiques de la Turquie. Il venait aussi d'être nommé capitaine de vaisseau. Sa promotion de grade me parut bien vite l'avoir plus touché que son succès littéraire. Avant cette rencontre, et pour m'y préparer, j'avais, d'un coup d'œil rapide, parcouru à nouveau son œuvre, et plus particulièrement Asiadée et le mariage de Loti, parce que ces deux livres de jeunesse me semblaient renfermer plus que tous les autres les secrets de sa personnalité étrange, mystérieuse et fascinatrice. Au passage, j'avais retenu dans le premier une sorte de définition que donnait Plumkett, son camarade de promotion et alors son ami préféré, du caractère de Pierre Loti. Ce témoignage comptait, mais depuis, le journal intime l'a confirmé à deux reprises. Vous avez raison, il y a sur moi une foule de couches disparates, superposées par les circonstances, par les milieux, par le temps. Les gens qui m'entourent rencontrent l'une ou l'autre de ces couches artificielles, suivant ce qu'ils sont, suivant ce qu'ils m'inspirent. Tout au fond de moi-même, il y a beaucoup de simplicité, presque une simplicité d'enfant. Rien de plus dangereux, de plus malsain que ces existences nerveuses et factices que nous nous sommes créés, vous et moi, mon cher ami. » Quand il répondait ainsi à Plumkett en 1880, Pierre Loti avait 30 ans. Il avait mené, à travers le monde, une existence égoïste et inutile, détraquée et blasée, sans enchanter son mal incurable, ayant dans l'âme une fleur d'ennui qui l'empoisonnait. Un an après cette lettre, il faisait à Émile Pouvillon, un ami de fraîche date, le même aveu sur ce moi qui était au fond de lui-même, le vrai celui-là, un homme primitif, une espèce de sauvage préhistorique qui se montre de temps en temps et fait peur aux gens. Pierre Loti, dès le premier abord, ne me fit pas peur, mais il me déconcerta par sa politesse glaciale et presque muette. Il fallait, patiemment, lui arracher les mots. Méfiant, il s'était mis en garde et ne se livrait pas. La politique et le midi m'avaient habitué à d'autres accueils. Il s'aperçut de l'effet produit et, sans s'étonner, mais peut-être en s'excusant, ses beaux yeux, où il y avait à la fois de la tristesse et de la malice, paraissaient me dire « Que voulez-vous ? C'est ainsi que je suis. » Il était ainsi, mais il était autrement. Je n'avais rencontré qu'une des couches sous lesquelles il cachait son âme. Cette première entrevue n'avait pas été heureuse. Vraiment, pour parler comme lui, il était un oiseau difficile à apprivoiser, qui exigeait des soins particuliers, du temps, de la patience et de la prudence. Il suffisait d'un mot malvenu ou mal compris pour tout compromettre. L'oiseau, qui se savait curieux, n'acceptait pas d'être un objet de curiosité. Avant de se donner, il voulait qu'un dévouement désintéressé s'offrît à lui. La confiance de Loti ne se gagnait que comme une conquête, toujours fragile et précaire. Les familiarités lui répugnaient. Même quand on était sûr de son amitié ou qu'on croyait l'être, il fallait se surveiller et le ménager. Écoutez ce qu'écrivait, après avoir reçu son hospitalité dans la maison enchantée de Rochefort, une femme d'élite qui fut son amie et aussi, parce qu'il l'en pria, sa marraine de guerre, sa bonne et adorable marraine, disait-il. Lointain, hautain, distant, déconcertant par son regard qui voit trop de choses et qu'il ne vous livre pas, il a une peur affreuse d'être envahi, débordé. Son indépendance farouche ne supporte pas d'être approchée, même par une compréhension. Il dédaigne, il plane avec une distinction suprême, et d'une voix très douce, pleine d'un charme infiniment prenant, il sait dire les choses les plus impertinentes, avec une candeur avisée qui achève de désarçonner le malheureux interlocuteur. Il faut avoir franchi la redoutable barrière pour savoir quel trésor de bonté profonde, de tendresse délicate et fine, d'exquis enfantillage averti, d'inlassable sollicitude pour ceux qu'il aime, se cache sous ce masque, servant de défense à une nature timide, infiniment solitaire et sensible au point que le moindre choc la fait souffrir d'une manière indicible. Ce sont là, si je peux m'exprimer ainsi, des amitiés de serre chaude, dont on a la fierté, mais qu'on doit cultiver avec le tact le plus attentif et la délicatesse la plus continue. Elle ressemble à celle dont parle Montaigne. Il y faut marcher la bride à la main, avec prudence et précaution. La liaison n'est pas nouée en manière qu'on ait aucunement à s'en défier. Ah, si Loti avait connu les essais, il y aurait trouvé le mot qu'Aristote avait très familier. Oh, mes amis, il n'y a nul ami. Mais avait-il besoin d'Aristote ? Il avait extrait d'une vieille poésie orientale deux proverbes qui disaient la même chose et pour son compte il l'exprimait de la façon la plus pittoresque. Les amis sont comme les chiens, cela finit mal toujours et le mieux est de n'en pas avoir. Pourtant il en eut, non des chiens mais des amis, et avec lesquels cela ne finit pas toujours mal. C'étaient les commencements qui étaient difficiles. Il avait pour ses semblables un mépris merveilleux, je le cite, qui ne rendait pas les relations aisées. « Je ne me figure pas, écrivait-il à Alphonse Daudet, qu'un nouveau venu pourrait encore prendre place dans ma vie. Quand j'y entrais, je ne me figurais pas davantage que poussé vers lui par l'admiration et par la curiosité, je serais, pendant 17 ans, le confident de ses pensées les plus intimes. Il m'avait pardonné d'être ministre. Il y a des habitudes, si mauvaises soient-elles, qu'il faut se résigner à excuser. Je fus même plus heureux que Plumkett qui lui écrivait « Jamais nous n'avons été bons amis qu'à distance. C'est un fait acquis. Vous m'avez toujours cherché noise. » Je connus de ces noises, mais en 1913, j'eus la grande querelle et presque la brouille. Le port de Rochefort en fut la cause. Loti défendait les intérêts de sa ville natale avec une âpreté et une ténacité qui se réclamaient contre les projets de la marine de l'intérêt national. Ma situation de président du conseil m'imposait les devoirs d'un arbitrage périlleux. Il me fut impossible de satisfaire toutes les exigences de Pierre Loti. Il donna, courtoisement, congé à mon amitié. Je ne l'acceptai pas. Mais l'alerte avait été chaude et le cas était grave. Des explications loyales furent échangées. J'apaisais Loti sans le convaincre. Il garda une forte rancune à mon collègue de la marine, mais la suite me prouva, par les plus précieux témoignages de sa confiance, qu'il ne restait rien à mon égard de cet incident, rien sinon son opinion inflexible. La Turquie et Rochefort, le port de Rochefort agonisant comme la Turquie, ont donné à Pierre Loti, sans que j'aie besoin de citer d'autres exemples, l'occasion de prouver jusqu'où pouvait aller sa fidélité courageuse et son dévouement désintéressé. À l'âge de 25 ans, il croyait que les sources de ce dévouement étaient taries en lui. Il se jugeait mal. Il disait qu'il avait fermé son cœur à autrui. Il ne savait pas de quel réveil un cœur né bon est capable. Il n'était pas égoïste. Il était exclusif. Quoique capricieux et fantaisiste, sa vie était dominée par des partis pris dont il subissait, à son insu, la contrainte ou la duperie. Son discours de réception à l'Académie française, où il fut élu en 1891 à l'âge de 41 ans, est plein de révélations. Faute, peut-être, d'en avoir compris le sens, on n'a pas encore épuisé toute leur richesse. Il succédait à Octave Feuillet. L'Académie se plaît à ces contrastes. L'auteur du mariage de Loti s'attacha avec un art paradoxal à rechercher et même à accentuer les traits qui lui étaient communs avec l'auteur d'un mariage dans le monde. On ne lui en demandait pas autant. Il n'est pas nécessaire de ressembler à celui que l'on remplace. L'Académie serait une réunion vraiment trop monotone si la succession au fauteuil vacant était réglée par la loi d'une imitation continue. Aussi Pierre Loti se méprit-il sur ses devoirs de récipiendaire en affirmant qu'au fond, il y avait entre Octave Feuillet et lui une conformité de goût complète. Au contraire, tout les séparait, leur sujet, leur milieu et leur tendance. Il n'est pas vrai qu'ils aimaient, comme écrivains, les mêmes choses, les mêmes compagnies, les mêmes femmes. Mais l'auteur de Madame Chrysanthème trouvait et forçait l'occasion de ce rapprochement pour faire, non comme homme de lettres, mais comme homme tout court, une profession de foi qui avait besoin d'une caution. Un commun dégoût nous unissait contre tout ce qui est grossier ou seulement vulgaire, et peut-être aussi, il faut l'avouer, un commun éloignement trop dédaigneux, pas assez tolérant, à peine justifiable, pour tout ce qui tient le milieu de l'échelle humaine, pour les demi-éducations et les banalités bourgeoises. Voilà l'aveu, nuancé mais formel. Pierre Loti détestait les bourgeois, et dans l'échelle humaine, il ne se laissait séduire que par les deux extrêmes. D'un côté, il aimait les simplicités sauvages de ses rudes matelots et de ses très petites amies, à peine plus compliquées de civilisation que des gazelles ou des oiseaux. De l'autre, il n'échappait pas aux élégances et aux charmes des grandes dames, qu'il préférait et choisissait dans l'aristocratie de la race, sans nier que d'autres, non titrés, puissent avoir la haute fierté de cœur et l'affinement extrême. Il est tout entier dans cette opposition. Mais c'est surtout l'homme primitif qui l'emportait en lui. Déjà, au collège, il s'entendait avec les petits paysans des montagnes ou les petits pêcheurs de l'île, et il jouait avec eux, tandis que les autres, qu'il traitait comme des égaux, le trouvaient fier, bizarre et poseur. Partout et toujours, il fut le même. Il n'est que de lire Asiadée, Les Fleurs d'ennui ou Le Journal intime pour recueillir les aveux du goût qu'il avait pour les gens extraordinairement simples, qui croissent comme des plantes saines. Il ramassait des forbans dans les rues, tel, dans le vieux quartier musulman à Salonique, un Samuel, tout dépenaillé, pieds nus, jambes nues, la chemise en lambeaux, mais propre comme une chatte. Il trouvait chez ses amis de rencontre plus de jeunesse et de vie, des sentiments plus puissants et moins banals que chez ses pareils. À bord du Redoutable, en 1878, il avait reconnu Kermadec, un contremaître, qui fut autrefois son compagnon de navigation. J'aime mieux les gens qui ont poussé tout seuls que les demi-éducations de mes collègues. C'est amusant d'avoir un camarade qui accepte avec admiration toutes vos idées et vous prend pour un homme de génie, opinion que vous ne partagez pas. Cette opinion lui vint plus tard. Comme je disais un jour à Pierre Loti qu'il était un enfant de génie, il me répondit « Le dernier mot est excessif. » « Non, lui dis-je, et c'est même celui dont vous êtes le plus sûr. » Il se contenta de sourire, mais en 1878, il ne le savait pas tout à fait encore. À bord du Tonnerre, ses soirées heureuses étaient celles qu'il passait avec son frère Yves. Nous faisons flamber un feu joyeux et nous causons d'autrefois. Son intelligence s'ouvre, au contact de la mienne, à une foule de choses, de notions, d'idées jusqu'alors inconnues pour lui. Je lui apprends aussi Istanbul et il m'écoute avec complaisance. À ce contact, sa propre nature, trop compliquée, se rafraîchit et se repose. Quand il écrit en 1881 à Émile Pouvillon, il invoque comme amitié durable celle qui le lie à Yves. Pensez-vous qu'elle pourra finir? Nous avons toujours été prêts à tout risquer l'un pour l'autre, et vraiment, si on m'affirmait qu'un jour viendra où je n'aimerais plus mon pauvre Yves, ce serait pour moi la déception suprême. Il ne connut pas cette déception. Excessif et sincère, il passait de cette sorte de simplicité primitive qui le rapprochait de l'homme naturel au charme de la civilisation, qu'il détestait pour ses prétendus progrès, mais dont il aimait certains raffinements. Il était fier des relations qu'il s'était créées avec les reines, les princesses, les duchesses ou les marquises. Mais il y avait dans sa gratitude respectueuse une sorte de timidité apeurée qui craignait de déplaire. C'est avec un frisson qu'il sentait le frôlement d'un de ces êtres spéciaux en qui de grandes nations se personnifient. Il eut beaucoup de ces reflets royaux sur la sombre route. La reine régente d'Espagne, la reine des Belges, la reine Nathalie de Serbie, la reine Élisabeth de Roumanie. Il restait fidèle dans l'infortune. S'il frissonnait devant les têtes couronnées, les couronnes tombées ou chancelantes ajoutaient de l'émotion à son respect. Il fréquenta surtout Élisabeth de Roumanie, qui avait pris en littérature le pseudonyme de Carmen Silva. C'est en 1886, après Pêcheur d'Islande, dont elle fut éprise, qu'elle invita Pierre Loti à lui rendre visite. Les yeux clairs et doux de la reine et la simplicité bienveillante de son accueil firent oublier à son hôte son origine allemande. Il fut flatté dans son amour-propre et dans sa vanité littéraire. Elle lui avait suggéré l'idée d'écrire ses souvenirs et il lui dédia le roman d'un enfant. « Je ne crois pas commettre un sacrilège en vous lisant dans son entier cette dédicace telle que Pierre Loti me l'a donnée et que le livre a écourté si brusquement. Il se fait déjà tard dans ma vie pour que j'essaie d'écrire ce livre. Autour de moi une sorte de nuit commence à tomber. Où trouverai-je à présent des mots assez frais, des mots assez jeunes? Je l'entreprendrai demain, en mer. Au moins tâcherai-je d'y mettre ce qu'il y a eu de meilleur en moi, autant il n'y avait rien de bien mauvais encore. Je l'arrêterai de bonne heure, afin que l'amour dont j'ai beaucoup parlé dans mes autres livres n'y apparaisse qu'à l'état de rêve imprécis. Et je l'offrirai comme un hommage d'extrême admiration, de confiance charmée, de vénération singulière, à l'exquise reine qui, au moment du départ, m'envoie pour talisman cette lettre. Faut-il vous dire que je suis heureuse de vous savoir bientôt dans le grand désert du large, en tête-à-tête avec l'imagination, la seule maîtresse fidèle qui donne toujours et ne demande rien? Mais en cet instant, vous ne pouvez me comprendre. Votre cœur troublé déborde d'angoisse, et la solitude au milieu de la mer vous épouvante. Cependant, j'espère que dans peu de temps, vous direz que j'ai eu raison, et qu'il fait bon dans la petite cabine, la plume en main, ou sur le pont du quart dans le silence majestueux d'une nuit d'étoiles. Il me semble que les orages du cœur doivent s'apaiser alors, et qu'on se met à avoir pitié de ce pauvre moi laissé à terre, et à lui pardonner ses faiblesses. Un autre grand moi sort des flots, et vous regarde et vous dit de l'écouter, parce qu'il est celui que les dieux aiment, et auquel ils ont confié leurs dons. Un beau moi qui ne connaît ni péché, ni dégoût, ni lassitude, parce que le grand souffle a passé sur lui. Peut-être me trompais-je sur la nature de la passion, mais il me semble qu'elle est composée de matière trop grossière pour pouvoir résister quand l'âme prend son vol, qui ne peut être que solitaire. À deux, l'on peut toucher aux cimes. Il faut être seul pour s'y soutenir. Oh, comme je vous envie cette prison cellulaire mouvante, cet ermitage, cette monotonie grandiose et purifiante. Comme j'en jouirais. comme ce mouvement perpétuel me calmerait, à condition d'être seul parmi les gens ne connaissant pas mes peines. Lorsque la souffrance est bien grande, on ne la sent presque plus, on est transfiguré, on se surpasse, on marche sur l'air comme les somnambules, sur les eaux comme Jésus, on est invulnérable. Mêmement, on ne comprend plus très bien les petites choses qui vous blessaient autrefois. Vous me ferez mon livre, n'est-ce pas? Je l'aimerais tant. Il satisfera au besoin qu'a l'âme en peine de parler d'elle-même, et ainsi il vous sera bon. Donnez au monde une de ces choses profondes de vérité, de simplicité, de pureté, et si vous versez quelquefois des larmes sur votre âme, enfantine et angélique, ne les chassez pas, elles lavent. Lorsque vous penserez à moi, ce sera un stimulant, je l'espère, un appel à toutes les forces de l'âme, un appel à votre génie qui est plus grand que la passion même. Cet appel émouvant, où la reine s'effaçait derrière la femme, ne pouvait laisser indifférent ni le cœur, ni le génie de Pierre Loti. Il y répondit par un chef-d'œuvre. 4 ans après, il revint à Sinaïa. La reine l'intéressait plus que le pays, pourtant si beau, mais qu'il n'eut pas le temps ou le goût de voir. Ce sont, je le crois bien, les seuls voyages qui ne lui aient pas inspiré des pages pittoresques, et c'est dommage. Son petit livre, Une exilée, est un plaidoyer pour la reine en disgrâce. Avec elle, et tout au contraire des relations avec la reine régente d'Espagne, la vénération de Pierre Loti prenait un caractère plus singulier que religieux. C'est son mot. Pourtant, il ne faut pas qu'on s'y méprenne. C'est assez de dire, sans en dire plus, que Pierre Loti fut traité par Carmen Silva sur le pied de l'amitié la plus confiante. Le génie avait rapproché les distances sans les supprimer. Il restait un protocole. Mais l'ami de Samuel et d'Yves excellait à en concilier les règles avec la liberté qu'on lui laissait. Vraiment, il avait la manière. Quand il fut rentré à Rochefort, après son second voyage de cour, il écrivit à la reine plusieurs lettres, qui, perdues d'abord, lui furent restituées plus tard dans des circonstances où j'eus l'occasion de le servir. Il m'en a donné une partie. La première vous permettra d'en juger le ton et le tact. Voici de nouveau l'énorme distance entre nous et qui sait pour combien d'années. Me voici de nouveau vous écrivant de très loin, dans le petit cabinet de travail où je songe avec tristesse que jamais, jamais vous ne viendrez, même une seule minute, laissez le charme de la plus passagère présence. Bucarest et Constantinople se sont brusquement reculés dans un lointain de rêve. Il me semble déjà, replongé comme je suis dans ma vie habituelle, n'avoir eu que l'illusion de ce rapide voyage. Mais du rêve, il reste ceci. C'est que je me suis attaché à la reine 10 fois comme avant, que je l'aime de l'affection la plus réelle, la plus humaine en même temps que la plus respectueuse. Cette affection est à présent indépendante de toute admiration, affranchie de toute influence de prestige, plus profonde que cela et meilleure. J'espère que votre majesté aura bien voulu, comme je l'en avais prié, dire au roi ce que je n'ai pas su lui dire en partant, le remercier de son accueil si particulièrement bon et exquis. J'étais si touché et charmé d'être admis chaque soir à cette petite table intime, et je comprends si bien quel rare privilège m'a été accordé là. Après mon premier séjour à Sinaïa, j'étais parti ne reconnaissant pas plus le roi que les statues qui gardent l'escalier du château, malgré l'excessive bienveillance de son accueil. Cette fois, au contraire, j'ai entrevu l'âme derrière l'intimidante enveloppe et je sens que, en toute vénération, je lui suis attaché du fond du cœur. L'attachement, il me semble, est une chose toujours bonne, n'importe de qui il vienne. C'est du reste un sentiment que Sa Majesté royale ne peut empêcher, de même qu'elle est tout à fait impuissante à le faire naître. Je demande à Votre Majesté de vouloir bien dire cela au roi, dans la mesure de ce qu'il est correct d'exprimer à un souverain. Je m'étais fait un peu de bien près de vous, madame, sans qu'il y parût, car j'ai conscience d'avoir été très nerveux pendant mon séjour à Bucarest. Mais c'était très réel, cependant. J'avais pris un peu de votre haute sérénité, et puis je l'ai perdue à Stamboul, où je me suis fait beaucoup de mal. Je l'ai semée dans les cimetières et ailleurs. Puis je suis rentré ici plus troublé et plus changeant qu'au départ. J'aurais mieux fait de revenir tout de suite au logis. Cependant, le sultan m'a fait un bien charmant accueil et m'a comblé. Et j'aime tant la Turquie que j'étais très heureux de me sentir compris par lui. Décidément, il y avait plusieurs hommes dans Pierre Loti, et il n'avait pas eu tort de se définir un composé de tout, un tout où il mêlait, avec ses sentiments de rouleur, de blasé, d'égoïste et de sauvage, les plus exquises délicatesses, le tact le plus prévenant et la douceur la plus raffinée. Il savait parler aux reines et aux forbans, aux princesses et aux matelots, aux duchesses et aux contrebandiers, aux marquises et aux pelotaries. Ces contrastes l'amusaient, mais il ne s'y plaisait pas qu'aux mots jeux recherchés d'un paradoxe perdu. Ils étaient la loi même de sa nature et l'effet imprévu d'une éducation qui avait manqué son but. Élevé comme une petite fleur rare de serre chaude, il tournait, au rebours de toutes les probabilités, à la brousse de maquis, à la plante de hallier. Mais jamais il ne s'avilissait jusqu'à des bassesses de tenue ou des trivialités de langage qui auraient répugné à sa distinction native. À travers ses déguisements et ses débordements, il restait un aristocrate qui respectait les grands et se faisait aimer des humbles. Que de fois n'ai-je pas dû régler avec les autorités administratives des Basses-Pyrénées les affaires de contrebande où s'étaient laissé prendre des pelotaries qui étaient les amis, mais vraiment oui, les amis de Pierre Loti. Ainsi, il m'apparaissait toujours comme l'énigme vivante dont Plumquette, le plus capable pourtant de la déchiffrer, n'avait pas réussi à pénétrer le troublant et irritant mystère. Une âme innombrable et instable, complexe, changeante et insaisissable, un composé de plusieurs êtres qui entremêlaient dans un seul et même homme leurs existences contradictoires, leurs rêves, leurs besoins, leurs désirs, leurs passions, et je n'ajouterais pas, pire encore, si Loti, à l'âge de 35 ans, n'avait pas écrit à Émile Pouvillon « Je suis capable de pardonner des vices, même des crimes, à ceux que j'aime. Soyez indulgents, vous aussi. Mon sauvage, à moi, a fait pire que le vôtre. » Tout n'était pas fanfaronnade dans ses aveux, mais il faut se dire aussi que Pierre Loti aimait les mystifications, les gageurs, les farces, les bons et les mauvais tours, les divertissements et les travestissements. Il ne lui déplaisait pas d'étonner les gens, de les déconcerter et même de les épater, cédant, d'après son propre aveu, au désir enfantin de se singulariser. Comme il avait plusieurs âmes, il avait plusieurs costumes, et pas seulement au cours des voyages où il prenait, par commodité et par fantaisie, les vêtements du pays. À Toulon, en 1876, il s'était enrôlé sous la présidence d'une vieille dame maritime, dans une certaine bande lyrique, qui donnait des concerts, pour les pauvres il est vrai, dans les villes voisines, où il arrivait que des municipalités reconnaissantes offraient un souper au champagne à la troupe joyeuse. À Bordeaux, déjà et depuis longtemps officier de marine, il s'était affublé d'un costume de matelot pour manger, dans une vieille auberge, des mets grossiers auprès de mariniers et de bonnes femmes qui le prenaient pour un conscrit et l'exhortaient au courage. C'est également en matelot qu'il rendait visite à Sarah Bernard, avenue de Villiers, ou qu'il allait l'applaudir au Théâtre Français. Reconnu par elle, il en recevait de la scène un imperceptible sourire, et le public étonné regardait ce simple marin qui venait d'obtenir une faveur si grande. Rien ne marque mieux les contrastes dans lesquels Pierre Loti se complaisait que deux passages du second volume du journal intime. Il se place au mois de mai 1884. La revue des Deux Mondes, en publiant, quelques mois avant, Mon frère Yves, a fait de sa célébrité, jusque-là plus pittoresque que solide, une gloire littéraire. Il a du génie, on le sait maintenant, et la curiosité mondaine se le dispute. Lundi 12 mai. Dîner à une table qui disparaît sous une gerbe de fleurs blanches ayant à ma droite Ouida, surnom de Madame Lee Shield. À ma gauche, la jeune duchesse de Richelieu, habillée comme une fée Louis XV, étincelante de diamants. Il y a la duchesse de Gramont, la comtesse de La Rochefoucauld, la marquise de Nadaillac, etc. Après dîner, Ouida, la jeune duchesse blonde et moi, isolés tous trois dans le recoin d'un salon, nous faisons aparté, perdus dans une longue causerie intime. En nous séparant, ce sont des promesses d'amitié durable, des promesses de nous revoir, comme hier, au bas-fond de Belleville, avec les rangs nopéens et leurs amis. Qu'avait-il donc fait la veille? L'aveu ne lui coûte pas. Dimanche 11 mai, roulait toute la nuit dans les bas-fonds parisiens en compagnie de deux frères nopéens, mes matelots jadis, aujourd'hui des forts de Belleville. Le bal Colbus, le bal sauvage, les bouges d'Auvergnat où l'on danse au son des cornemuses, renverser les tables, chanter jusqu'au matin par les rues. Les frères nopéens, leurs maîtresses, leurs amis forment une bande assez unie où tout le monde se tutoie. On se sépare au hall en s'embrassant. Ils me sont dévoués, disent-ils, jusqu'à la mort. Et ce sont des serments d'amitié éternelle, des serments de se revoir. Il n'y a eu dans la vie de Pierre Loti qu'un seul frère Yves, mais, cueilli ou ramassé dans toutes les parties du monde, combien de nopéens? Je n'en connais pas de plus imprévu que les clowns du cirque étrusque de Toulon, avec lesquels il s'était lié d'amitié, façonné, transformé, musclé par les exercices de gymnastique de Joinville. Il eut un soir, par dépit ou par défi d'amour, la fantaisie de paraître avec eux en public. Quoique le secret eût été bien gardé, l'amiral de la couronne n'ignorait pas la folle équipée qui se préparait. Il eut le langage d'un chef. S'il réussit, je ne sais rien. S'il échoue, je le fiche aux arrêts. L'acrobate improvisé lui épargna cette peine. Vêtu d'un maillot jaune et vert, collant à craquer, ce qui est la suprême élégance des pitres, et d'un caleçon de bain de velours noir, un loup sur le visage, il accomplit tous les exercices qui pouvaient faire briller ses talents du plus vif éclat. Voltige, saut périlleux à l'endroit et à l'envers, pyramide humaine, équilibre vertigineux. Ce fut un triomphe qui entraîna tout, les spectatrices, les femmes du monde, et de l'autre les écuyères, Madame Hortensia, qui exécutait un travail de sauvage sur un cheval nu, et la belle Pascaline, âgée de 16 ans, fiancée à l'écuyer Massy. « Quel dommage, monsieur, lui dit le directeur du cirque, que votre éducation ait été commencée si tard. » Quoique ces paroles fussent pour Loti, dont l'ironie ne respectait rien, les plus profondes qu'il eût entendues dans sa vie, je ne les ai pas retrouvées, ni même leur écho, dans le discours par lequel le respecté M. Mézières le reçut 16 ans plus tard sous la coupole. Je vous laisse le droit de croire qu'une autre éducation avait dicté le choix de l'académie. Pourtant, un grand écrivain, qui ne fut pas de l'académie, mais auquel rien de Pierre Loti n'échappait, Alphonse Daudet, lui écrivait un jour « Je m'imagine l'enfant et le jeune homme que vous avez été, et l'on n'est pas la délicieuse pourriture d'écrivain que vous êtes, on n'a pas cette saveur molle de banane, cette exquise odeur de fleurs de soleil, on n'est pas poreux, ouvert, sensitif, instinctif comme Loti, sans avoir été ce que le philistin ignorant des causes appelle un chenapan. Quelle façon délicate et profonde de comprendre Loti et de le définir. Mais le génie pousse-t-il comme une banane, et toutes les fleurs germent-elles de la même façon sous le même soleil? Il n'est presque pas un critique qui n'ait cherché à établir par des comparaisons la filiation d'un écrivain dont l'originalité consiste précisément à ne se rattacher à personne. Pierre Loti n'était pas insensible aux louanges, mais il trouvait généralement qu'on le louait mal. Il acceptait, avec plus ou moins de bonne humeur, la sévérité d'une critique juste, tandis que l'incompréhension l'irritait. J'ai rappelé dans le livre du centenaire de la revue l'aveu qu'il faisait à une amie. « Je ne suis pas susceptible avec les gens qui me plaisent. Il est moyen de tout me dire en sachant s'y prendre. » Cela faisait bien des conditions. Son camarade Plumquette les remplissait toutes. Il avait eu sur ses premiers livres un droit de regard. Il s'en acquittait avec une mesure, un sens des mots et des nuances, une patience diplomatique, une habileté dont témoignent les manuscrits de Rarahu et de mon frère Yves qui sont, je ne veux pas dire où, pour ne pas susciter des jalousies dangereuses. Loti se défendait et il résistait, mais il appréciait à sa vraie valeur la censure préventive de son ami. Aussi, quand après cette révision commune, le livre paraissait, Loti l'avait poussé, jusqu'à ses négligences voulues, au point de perfection qu'il rêvait. Le tour de la critique était venu. Assez et trop indifférente à Asiadée, elle fit un très bon accueil au mariage de Loti, qui avait bouleversé Alphonse Daudet, charmé Octave Feuillet et plu, par son rare talent, à Goncourt. Alphonse Daudet trouvait que Scherrer avait écrit des choses lourdes, et Mézières des choses académiques. Tandis qu'au contraire, l'article de Saint-Victor lui paraissait charmant, et celui d'Henri Fouquier, à l'officiel, aux temps heureux, excellent. Loti fut et sincèrement surpris de ce succès. Mais à part Paul de Saint-Victor, il n'avait pas été compris, sinon par bribes, et il regrettait que le charme polynésien « Il n'y a que cela, disait-il dans le livre, eût échappé aux représentants de la critique intelligente. » Il en est ainsi de tous les chefs-d'œuvre de Pierre Loti. Celui qui n'en comprend pas le charme ne sait pas et ne peut pas les admirer. Il est insensible au sortilège du magicien. J'accorde qu'on ne mette pas Loti au-dessus. Je l'accorde bien entendu à ceux qui ne pensent pas comme moi, mais il faut le mettre hors série. Qui s'y refuse avoue que l'âme de Loti lui est étrangère. Et pourtant, c'est de cette âme, comme le disait si bien Jules Lemaître, que vient aux petites phrases de Loti leur immense frisson. Déjà, Asiadée ne ressemblait à aucune autre œuvre. À quoi donc ressemblent les chefs-d'œuvre qui ont suivi? Ne cherchez pas au livre de Pierre Loti une influence, et laissez à leur auteur toute sa paternité. Il ne doit rien à personne. Quand il dit à l'Académie, dans son discours de réception, « Je ne lis pas. » On s'étonne, mais il dit la vérité. Est-ce paresse d'esprit, frayeur ou lassitude? Il n'en sait rien, mais il ne lit pas. Enfant, il dédaignait les livres. À Rochefort, en 1879, il étouffe dans l'atmosphère monotone d'une maison triste. Ses 30 ans regrettent ses camarades de bord, leurs jeux bruyants, les tapages nocturnes, le vacarme par les rues, et il note cet aveu, dont la sincérité à cette date est décisive, « Si je lisais encore, mais il y a des années que je n'ai pas ouvert un livre. » Il a surtout les vers en horreur. Son père, à 16 heures, en faisait, lui, jamais. Au collège, l'un de ses amis, Paul, amoureux d'une petite parfumeuse, qui s'appelait d'un nom comme Stella ou Olympia, lui dédiait les rimes les plus suaves, où son nom en a revenait fréquemment comme un parfum de cosmétique. Ce lyrisme éthéré n'avait d'autre effet que d'exciter la pitié agacée de Julien Viau. Elles ont été en partie cause, écrit-il dans le roman d'un enfant, que jamais, jamais, à aucune époque de ma vie, l'idée ne m'est venue de composer un seul vers, ce qui est assez particulier, je crois, peut-être même unique. On peut ne pas faire des vers et cependant les aimer. Il ne les aime pas. Avec Victor Hugo, je doute qu'il soit allé beaucoup plus loin que les orientales. Avec Lamartine, il a, d'abord, admiré le lac, surtout les vers magnifiquement sinistres de la strophe lapidaire, dans la nuit éternelle, qui ont éveillé ses premiers effrois devant la possibilité d'un néant final. Mais plus tard, pardon pour ce sacrilège, il les a trouvés bien rococo. Peut-être parce que Lamartine, pardon pour cette profanation, continuait à lui être antipathique par sa poserie et son grand profil pompeux. Avec Musset, c'est différent, mais pas autant qu'on l'a dit. Son ami Paul lui en avait lu des vers, qui le troublaient comme quelque chose d'inouï, de révoltant et de délicieux. Il hésita longtemps, avant de prendre sur un rayon de la bibliothèque de son frère le volume où il se trouvait et qu'on lui avait interdit. Un jour de juin, il l'ouvrit et il écouta la dangereuse voix d'or de Don Paez. Mais ses vers et les autres du même ton, ceux de Rolla ou de Namuna, n'éveillèrent en lui que sa corde byronienne, sans émouvoir son cœur. Ayant rabattu mon chapeau de feutre sur mes yeux, comme Don Paez, je marchais d'un pas souple et léger, relevant la tête vers les balcons et poursuivant je ne sais quels rêves enfantins de nuit d'Espagne, de sérénades andalouses. Et ce fut tout. Les vrais, les grandes nuits, lui échappèrent. Non, il ne lisait pas. Un jour, il vit chez moi l'admirable croquis où Fantin Latour avait dessiné la tête si expressive de l'auteur du bateau ivre. « Tiens, me dit Loti, c'est un très beau tableautin. Qui représente-t-il? Devinez. Je ne sais pas. » Il regarde avec attention. « De la page et du génie, dit-il. C'est bien cela, Arthur Rimbaud. Rimbaud ne connaît pas. » Une autre fois, je lui donnais servitude et grandeur militaire, dont il ignorait même le titre. Il fit la moue. Lisez au moins Lorette, lui dis-je. Quand il me rendit le volume, il m'avoua sa déception. Lorette ne lui avait pas plu, peut-être, à cause de la mer trop sèchement décrite, et il n'avait pas lu le reste. Ce n'est donc pas dans les lectures de Pierre Loti qu'il faut chercher les secrets de son art. Ces secrets, dans la mesure où il est possible de les pénétrer, sont ailleurs, Dès son plus jeune âge, la peinture et la musique furent ses occupations favorites. Il apprit de l'une l'observation et de l'autre le mouvement, la cadence et le rythme. À 7 ans, il dessinait. J'ai de lui une feuille de petit diable qui date de cette époque. Sa sœur Marie avait un réel talent. Elle le conseilla et le guida. Ses commencements furent si prématurés qu'il ne se les rappelait plus. Il me semble que de tout temps j'ai su, avec des crayons ou des pinceaux, rendre à peu près sur le papier les petites fantaisies de mon imagination. Il cultiva ce don. À 15 ans, il écrivait des lettres, ou des dessins commentaient sa prose, déjà si nette et presque personnelle. À 16, il fréquenta le Louvre. Il renonça vite à la peinture à l'huile pour la mine de plomb et pour l'aquarelle. Il s'était cru artiste, il l'était. À part Victor Hugo, qui est toujours à part, aucun homme de lettres n'a dessiné et peint comme Pierre Loti. C'était plus qu'une fantaisie. Il y avait dans son talent les espérances d'une vocation. Quand la petite illustration publia, il y a 10 ans, un jeune officier pauvre, avec dessin et aquarelle de l'auteur, ceux-ci furent une révélation. On avait oublié, ou on ne savait pas, que l'illustration avait reproduit en 1872 et en 1873, puis Le Monde illustré en 1876, des dessins du jeune officier pauvre, qui augmentaient ainsi les maigres ressources de sa solde. Pierre Loti y tenait, surtout à ceux du Sénégal, plus qu'à ses manuscrits. En 1876, il prêtait, le mot est souligné dans la lettre, à sa sœur, devenue Madame Bon, un dessin de Dakar qu'elle lui avait demandé. À plusieurs reprises, il fut question d'une expédition ou d'une publication. J'avais réussi à les préparer, mais au dernier moment, Pierre Loti se ravisait toujours. Il avait peur qu'on ne lui abîmât ses peinturlures. Sa modestie était feinte. Il gardait ses dessins avec jalousie, à cause des chers souvenirs qu'il lui rappelait, mais aussi parce qu'il savait leur valeur artistique. Elle aura son heure. Pour l'instant, j'ai simplement voulu marquer d'un trait rapide l'influence que la peinture, pratiquée dès son plus jeune âge, exerça sur le talent d'écrivain de Pierre Loti. Elle lui apprit à voir, ou plutôt à regarder, à décomposer un ensemble, à dégager les détails, à saisir les contours et les couleurs d'un paysage, à sacrifier l'habileté à la sincérité, à préférer la nature aux écoles. D'un mot plus bref, elle contribua à l'éducation de son œil, le plus pénétrant peut-être, le plus aigu et le plus profond que notre histoire littéraire ait connu. Pierre Loti commença à travailler la musique dans le temps même où il s'initia à la peinture, mais à la différence de celle-ci, abandonnée assez vite, il ne renonça jamais à celle-là. On l'avait mis dès son enfance au piano, qui l'aida, pendant toute sa vie, à enchanter son mal. Son œuvre entière est baignée de musique. Il ne faisait jamais rien comme tout le monde. Aussi jouait-il à sa façon, avec son âme. Je l'ai entendu. Aucune virtuosité, mais le sentiment et l'art les plus délicats. Il y a, dans Prime Jeunesse, 2 émouvants souvenirs. Ici, une réunion de famille où il donne à un nocturne de Chopin, une musique qui n'était pas de son âge, de tels accents que sa mère le couvre d'un regard de mélancolique inquiétude. Là, après des variations vieillottes et jolies de Mozart sur l'air « Lison dormait », la rencontre avec des choses plus tourmentées, plus insondables, la Passionata et l'aurore de ce Beethoven, qui fut, je le crois bien, son dieu préféré. Mais il joue aussi du Chopin et du Liszt. D'ailleurs, piano à part, il variait et il poussait loin sa culture musicale. Après le désert, l'africaine et les huguenots, il vint sans peine à Wagner. Je me souviens de l'émotion profonde avec laquelle il écouta un soir à mes côtés Parsifal. Et il admira Debussy. Faut-il que j'excuse ici, aujourd'hui, cette admiration, qui est aussi la mienne, pour l'auteur de Péléas? Monsieur Camille Bellègue, qui a écrit des articles si finement nuancés sur les ombres, dont la vie musicale a occupé pendant un siècle la revue des deux mondes, ne me le demande pas. Je le sens déjà, si je l'ai bien lu, à l'égard de Claude Debussy, sur le chemin du repentir et tout près de l'heure où il ne se défendra plus contre les enchantements subtils du génie qui a porté dans la musique un frisson nouveau. Aucun frisson, ni ancien, ni nouveau, ne laissait l'âme de Pierre Loti indifférente. Aux heures troubles, pendant lesquelles il n'était soutenu par aucune croyance, il demandait de la musique avant toute chose. Il se heurta, pendant la guerre, étant marin et âgé de 64 ans, à des difficultés et à des obstacles dont, voulant servir, il ne se résignait pas à comprendre les raisons réglementaires ou simplement humaines. C'est une histoire douloureuse, et tout à son honneur d'officier et d'écrivain, qui méritera d'être racontée quelque jour. Comme on ne fit pas partout de lui ce qu'on aurait pu et dû en faire, il connut l'humiliation de fausses situations qu'un tact plus intelligent lui aurait épargné. Il recherchait les missions périlleuses. Il souffrit beaucoup de ne pas être appelé plus souvent à les remplir. La mort, et quelle mort, aurait été pour lui une délivrance. En septembre 1916, il écrivait à sa marraine « Je suis bien bas en ce moment. Je ne me suis jamais senti si bas, avec une telle hâte de voir tout finir. Ce temps sinistre et glacé que nous avons déjà ici, cette première agression d'un nouvel hiver à passer dans cet exil, tout cela m'achève. » Il la chargeait de 2 commissions. Voici la seconde. « Un jour que vous passerez devant un marchand de musique, m'achetez, ça coûte 95 centimes, la première partie de la sonate opus 27 de Beethoven, dite Claire de Lune, dans la nouvelle édition française publiée par Vincent d'Indy. Avec le choral de César Franck, que j'ai déjà ici, c'est ce qui me calme le plus à mes heures trop angoissées. » Tout ceci dit, je sens que les lois profondes de son art m'échappent. Les conseils de sa sœur, la peinture et la musique, la mer et les voyages, ont contribué à sa formation. Mais sa source même s'enveloppe d'un secret et d'un mystère que je suis impuissant à pénétrer. D'autres, et qui sont des maîtres, y ont échoué ou renoncé. Les miracles ne se démontrent pas. L'art d'Anatole France prête à l'analyse est peut-être même celui de Renan. Au contraire, le charme de Loti est indéfinissable parce qu'il est spontané, naturel, instinctif, affranchi de tout procédé et de tout préjugé. Pendant longtemps, il s'est ignoré lui-même. Quand le jeune officier de marine, errant à travers les mers du vaste monde, confiait à des cahiers d'écoliers les descriptions où son âme se mêlait au paysage, il ne faisait pas de la littérature. Il cédait à une force intérieure. L'ambition d'être un homme de lettres ne le hantait pas. Ce furent ses amis qui, avant lui, découvrirent son génie. Qui peut en dire la juste mesure? Il est vain, à un certain degré, d'assigner des rangs. Mais c'est surtout Pierre Loti qui dément ces hiérarchies artificielles. De quelque façon qu'on l'envisage, son cas est unique, et comme Alexandre Dumas-Fils pour Lamartine, je ne le compare pas, je le sépare. Ainsi s'achève Pierre Loti de Louis Barthou.